Bonjour et bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale. Nous sommes à Abidjan où notre invité Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères, vient d'achever sa première tournée africaine. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Pour vous interroger, je suis avec Marie Normand, ma collègue de RFI.
Bonjour Stéphane Séjourné.
Bonjour, bonjour à vous deux.
Alors Stéphane Séjourné, votre tournée vous a mené à Nairobi, à Kigali et à Abidjan. Au Rwanda, justement, vous avez participé à la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis, événement marqué côté français par ce qu'on peut appeler une confusion. Jeudi, l'Élysée transmettait à la presse ses propos. La France, je cite, « aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté ». Des mots très forts qu'on ne retrouve pas dans la vidéo du chef de l'État qui a été diffusée à l'occasion de ces commémorations. Pourquoi, monsieur le ministre ?
Bon, d'abord, permettez-moi, en quelques secondes, de redonner un contexte à ce déplacement que vous venez d'évoquer sur trois pays africains, puisque il y a 54 pays dans l'Union africaine et beaucoup le prisme a été donné au Sahel et le prisme français, justement, y compris en France, et souvent de voir nos relations avec l'Afrique sous ce prisme-là, sur trois pays où ça s'est pas très bien passé, il faut le dire, dans les dernières années. Et donc, nous avons besoin de redonner du positivisme à notre relation avec l'Afrique. Pour répondre à votre question, la France a voulu la réconciliation, et le discours du président de la République en 2011 fait cette réconciliation. D'ailleurs, c'est ce discours qui me permet, en tant que ministre des Affaires étrangères, d'être à ces commémorations, qui étaient denses, qui étaient pleines d'émotions aussi, dans lesquelles nous avons pu entendre un certain nombre de témoignages poignants, terribles aussi. Le génocide est le dernier génocide, d'ailleurs, du XXe siècle. Et effectivement, il y a eu cette polémique, mais qui n'enlève en rien le travail qui a été fait d'introspection, donner nos responsabilités et de regarder en face nos responsabilités dans cette crise qui a été fait en 2021 par le président de la République. Donc je pense que c'est une polémique qui est vaine, elle ne retire rien à la volonté de la France de la réconciliation. J'ai pu d'ailleurs m'entretenir avec le président de la République là-bas, et puis il nous a justement permis, ça m'a permis également de réitérer notre volonté de poursuivre dans cette réconciliation.
En 2021, vous le disiez, le président Emmanuel Macron a évoqué la responsabilité accablante de la France. Pourquoi vous n'allez pas au bout de ce processus mémoriel en reconnaissant par exemple la culpabilité de la France et pourquoi pas en présentant des excuses au Rwanda ?
Nous avons reconnu les responsabilités. D'ailleurs, ça a été dit dans les discours des uns et des autres pendant les commémorations. La communauté internationale n'a pas été à la hauteur en 1994. Nous avons participé à ça. Le président de la République a reconnu les responsabilités françaises. C'est ça qui nous a permis de réengager aussi avec le Rwanda sur tout un tas de sujets bilatéraux, notamment avec une coopération plus grande. Et donc je crois que nous avons été jusqu'à ce que nous avons voulu avec les autorités rwandaises, c'est-à-dire faire ce travail d'introspection fort et de reconnaître nos responsabilités. Et je pense que c'était ça qui était attendu aujourd'hui et ce qui me permet d'ailleurs de poursuivre notre relation bilatérale avec des sujets économiques et de francophonie aujourd'hui.
Est-ce que vous avez évoqué aussi le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, donc ? Paris condamne les deux pays pour leur soutien aux groupes armés dans cette région. Est-ce que cette position d'équilibriste est tenable ?
C'est une position d'abord de paix et de conserver la paix. Et donc moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, je dois passer des messages aux deux parties, forts, fermes, qui doivent permettre justement de reprendre un processus de discussion, un processus d'accord, et qui doit permettre que l'escalade n'advienne pas, puisque c'est ça le risque qu'on a aujourd'hui dans la région. Donc oui, je vais réitérer à mes deux homologues, que j'ai régulièrement d'ailleurs au téléphone sur ces sujets-là, nos demandes, que ce soit d'ailleurs à la partie rwandaise comme la partie congolaise. Et donc nous avançons sur ces deux sujets.
La France pourrait prendre des sanctions. Emmanuel Macron avait dit qu'il y aurait des sanctions si ce cessez-le-feu n'était pas respecté. Et un an est passé, y aura-t-il donc des sanctions, monsieur le ministre ?
À ce stade, nous sommes encore sur les messages à passer. Et encore une fois, l'objectif principal, c'est de reprendre les discussions et de remettre tout le monde autour de la table. Ce sont les discussions que j'ai eues avec mes homologues.
Et j'ai bon espoir.
J'ai bon espoir qu'il puisse y avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un certain nombre d'avancées.
À Paris ?
Je ne peux pas encore vous le certifier.
Autre région, autres enjeux, Monsieur le ministre. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, président nouvellement élu à la tête du Sénégal, promet un changement systémique. Le nouveau chef d'État sénégalais veut par exemple quitter le franc CFA. Comment la France envisage-t-elle ses relations avec ce président qui porte de nouvelles aspirations ?
Bon, d'abord dire de manière très sincère et de transparence que le processus démocratique a fonctionné et qu'il y a des alternances, comme dans beaucoup de pays. Alors, on peut aimer plus ou moins les orientations politiques, mais il faut qu'on puisse collectivement se satisfaire que les institutions sénégalaises ont été fortes, que l'alternance est venue par les urnes et que l'élection a été totalement transparente. Et donc, c'est la force du Sénégal de permettre ça, une démocratie, mature, avérée, qui elle-même construit ces alternances en fonction de ce que veut le peuple. C'est ce qu'on appelle une démocratie qui vit et qui permet justement ça. C'était aussi un message qui est envoyé à un certain nombre de régimes qui pensent que les idées ne peuvent advenir que par la force ou par des régimes militaires. Ça, c'est le premier point.
Vos relations avec le pays, comment vous l'envisagez ?
Ils seront forcément bonnes. Nous voulons travailler avec eux. Je les ai sollicités, évidemment, pour qu'ils puissent venir à Paris et moi venir également pour une visite bilatérale s'il le fallait. On va prendre contact. Mais je trouve que c'est un bon exemple, en tout cas, d'alternance démocratique et que ces alternances démocratiques permettent justement d'avoir des changements de gouvernement avec des idées différentes dans le cadre constitutionnel encadré. La France a été transparente également avec l'ancien président. Il fallait, dans le cadre de la Constitution, organiser ces élections. Elles ont été faites et je trouve que c'est une bonne chose.
Sur le franc CFA, restons-y. Bassirou Diomaye Faye veut quitter cette zone. Une réforme a été annoncée en 2020, mais elle a échoué. Pourquoi ?
Bon, d'abord, sur le franc CFA, nous ne sommes plus dans la gouvernance. Nous n'avons plus de réserve en France, notamment pour garantir la monnaie. Je n'ai aucun avis presque sur le sujet. Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom, organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États. Et nous voulons bien accompagner ce mouvement. S'il s'agit uniquement du symbole du nom, il peut être changé. S'il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire, elle peut également être changée. C'est de la décision de la souveraineté des États africains et ce n'est pas à la France d'avoir un avis là-dessus. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du CFA. C'est maintenant aux États africains de le décider.
Sur la question sécuritaire, Emmanuel Macron a annoncé début 2023 une réduction des effectifs militaires français déployés sur le continent. Son envoyé spécial en Afrique, Jean-Marie Bockel, a déclaré récemment que la France resterait au Tchad. Il y était. Le Tchad qui abrite l'une des plus importantes bases de la France sur le continent. Le Tchad qui s'est aussi rapproché de Moscou. Est-ce que cela vous inquiète ?
Bon, d'abord, sur les bases militaires, vous l'avez dit, Jean-Marie Bockel organise des consultations et c'est à la fois aux armées et à Jean-Marie Bockel de restituer les consultations qu'il est en train de faire. En tout cas, le président de la République a décidé de rénover nos bases, d'organiser avec moins de militaires déployés, des bases qui soient d'ailleurs plus imbriquées localement avec les armées nationales et africaines. Et donc, nous sommes à l'écoute en ce moment. Il y a des consultations qui sont faites. Et là-dessus, je pense que c'est le sens aussi de l'histoire.
Si le Tchad venait à signer un partenariat avec la Russie, par exemple, vous y resterez quand même ?
Chacun, encore une fois, est libre de sa propre souveraineté. Chacun peut avoir ses partenariats avec les Russes. Moi, ce que je dis juste aux gouvernants et aux responsables politiques qui signent des partenariats avec la Russie, je leur dis juste que c'est souvent ni gratuit ni constant. Ni gratuit ni constant. Soit les Russes se payent directement avec notamment la question des ressources nationales, ou soit demandent d'être payés pour assurer une sécurité. Donc après, c'est de leur responsabilité de le faire. Moi, je n'ai pas d'avis à avoir, et je pense que ce n'est pas le bon sens du narratif français de devoir avoir un avis sur l'intégrité territoriale et la souveraineté des accords bilatéraux que passent les pays africains.
Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères sur RFI et France 24. La France a dû quitter successivement le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Est-ce que vous avez maintenu des canaux de discussion avec ces pays ?
D'abord, nous avons quitté parce qu'ils ont souhaité que nous quittions. Il faut toujours le rappeler. Et la France fera plus avec ses partenaires qui veulent faire plus et fera moins avec ceux qui les rejettent. Voilà. Donc, c'était une évidence et nous sommes retirés. Nous ne sommes pas retirés sur les aspects humanitaires. Nous gardons des liens avec la société civile, qui me semble important. Et donc, ce travail continue, pas avec les gouvernements, pas avec les autorités, mais en tout cas avec les organisations humanitaires et la société civile.
Est-ce que le Maroc, dont la France se rapproche en ce moment, peut être un intermédiaire avec ces pays du Sahel ?
Le Maroc devient une puissance régionale affirmée. Elle doit même permettre d'avoir une forme d'organisation régionale et permettre aussi sa stabilité. Donc oui, toutes les initiatives aujourd'hui du Maroc dans la région sont les bienvenues. C'est encore une fois aux Marocains de décider leurs accords, mais je crois qu'ils ont une volonté de leur côté de pouvoir tisser des liens avec leurs voisins.
Et ça, c'est normal. Et à quel prix se fait ce réchauffement là, est-ce que la France fait évoluer en ce moment sa ligne sur la question du Sahara occidental ?
Je l'ai dit en étant là-bas, nous avons reconnu le fait que le Maroc développe économiquement cette zone. Nous avons même été un peu au-delà, puisque nous allons même faire venir des opérateurs publics pour la développer avec eux. Après, pour ce qui est de la question diplomatique, c'est entre les deux chefs d'État que cela se gérera et se réglera. Voilà, je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui devant vous.
Donc reconnaissance économique. On quitte le continent africain, Stéphane Séjourné. Septième mois de guerre, de riposte d'Israël à l'attaque terroriste du Hamas. Plus de 33 000 morts à Gaza. Washington évoque pour la première fois un conditionnement de son soutien à Israël. Est-ce que l'idée fait son chemin aussi en France et dans l'Union européenne, qui est le premier partenaire commercial d'Israël ?
Bon, d'abord, la France agit dans tous les cercles diplomatiques. On organisera encore dans quelques semaines une déconcertation avec les pays arabes et les Américains, les Anglais, les Allemands, pour justement trouver un processus politique à la crise sécuritaire qui est en parallèle. J'aurai également à continuer la concertation d'une proposition de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui sera portée par la France, qui à la fois met en avant la question du 7 octobre comme étant un acte terroriste et qui le définit pour la première fois aux Nations Unies. Les Nations Unies ne sont toujours pas positionnées là-dessus. Et puis, en même temps, qui donne un certain nombre de paramètres politiques sur la solution à deux États. C'est une concertation que nous menons et que nous continuons à mener. Et dans le cadre de cette concertation, oui, il faudra voir quels sont les autres éléments de rapport de force que nous pouvons avoir pour ouvrir un certain nombre de points de passage humanitaire. Nous revendiquons et nous demandons encore l'ouverture dans le nord et dans le sud, à Rafah et dans le nord, notamment de Gaza, l'ouverture de points de passage pour que 300 camions minimum puissent passer. C'est le minimum qu'il faut aujourd'hui. Il faudra des leviers et des leviers d'influence. Ces leviers d'influence, ils sont multiples, ils passent par au maximum des sanctions. La France a été le premier pays à proposer au niveau européen des sanctions contre les colons violents en Cisjordanie. On continuera s'il le faut pour pouvoir obtenir l'ouverture humanitaire et la contrepartie aussi du Hamas, qu'il ne faut pas oublier. Trois de nos compatriotes sont toujours otages à Gaza. Et cette libération est sans condition.
Solution à deux États, vous l'évoquiez. Paris la défend pour trouver une issue à ce conflit. Est-ce que la France à l'image de l'Espagne, veut reconnaître dès cette année la Palestine comme un État.
Alors c'est un sujet qui n'est pas tabou, le président l'a dit dans ces termes. Je ne vais pas vous dire l'inverse ici. Je crois profondément que ce sujet est par contre très intimement lié au processus de paix. Et donc on peut se faire plaisir à tous au niveau européen en se disant bah, nous reconnaissons unilatéralement. Je ne crois pas que ça soit utile de le faire seul, sans processus de paix et sans l'introduire dans un processus de paix comme une des conditions pour qu'on puisse avoir la cessation des hostilités et des garanties de sécurité pour Israël et pour les Palestiniens également. Donc je suis très... Il faut dépolitiser, je pense, ce sujet. Ce n'est pas une question politique, c'est une solution.
Mais Stéphane Séjourné, cette solution à deux États que vous prônez, le gouvernement Netanyahou n'en veut pas. Les manifestations ont repris d'ailleurs contre ce gouvernement. Est-ce que vous estimez que Benjamin Netanyahou est un obstacle aujourd'hui à la résolution de ce conflit ?
Non, moi je ne rentrerai pas là-dedans, c'est aux Israéliens. Israël est une grande démocratie. Il y aura probablement des élections, c'est aux Israéliens de décider. Comme dirait le président de la République, nous prenons les responsables politiques que les peuples nous donnent et nous discutons avec elles. Alors, on peut ne pas être en accord, mais on ne doit pas avoir de jugement sur leur légitimité à exercer aujourd'hui le pouvoir. Et Israël est une grande démocratie, on restera des amis d'Israël et on peut avoir des divergences avec les gouvernements, et c'est le cas aujourd'hui sur la question humanitaire.
Autre guerre aux portes de l'Europe maintenant, celle qui oppose l'Ukraine à la Russie. La semaine dernière, le ministre français des Armées et son homologue russe se sont parlé, ce qui a donné lieu à deux versions très différentes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cet appel d'une part et les récents propos d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine ? Est-ce que c'est le moment de reprendre contact avec Moscou ?
Nous avons une longue tradition historique maintenant avec... la Russie, de coopération sur le terrorisme. Et c'est dans ce cadre-là que le ministre des Armées a pris contact avec son homologue pour lui proposer une coopération et un échange d'informations sur cet attentat terroriste. Alors il y a eu deux communiqués très différents. Nous savons ce que nous avons dit au ministère et au ministre des Armées et de la Défense. Je sais quel communiqué croire.
Et cette coopération, donc, contre le terrorisme, elle continue malgré la guerre.
De fait, elle ne continue pas, puisque c'était une proposition et le communiqué russe...
Vous avez transmis des informations.
En réalité, en langage russe, propose que nous n'ayons pas de coopération, puisque le communiqué est clairement en décalage avec ce que le ministre des Armées a proposé.
On peut parler à Moscou encore, même en pleine guerre informationnelle ?
Je crois que ce n'est pas aujourd'hui notre intérêt de discuter avec les responsables russes, puisque les communiqués qui sortent et les comptes rendus qui en sont faits sont mensongers. Et donc il faut d'abord peut-être rétablir la confiance, peut-être surtout... avoir une évolution sur le terrain militaire en Ukraine pour que les relations puissent se renouer. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui.
Le terrain militaire, justement, monsieur le ministre, l'Ukraine en perd. L'aide américaine est bloquée. Elle pourrait même ne plus venir si Donald Trump venait à être élu en novembre prochain. Est-ce que les Européens sont capables de tenir seuls ?
Les Européens seront au rendez-vous de l'aide dans la durée, et ça, il faut que tout le monde en soit convaincu. C'est une question existentielle pour l'Europe, puisqu'elle détermine également notre risque sécuritaire dans la durée, vous l'évoquez. On a des incertitudes quant au soutien à l'Ukraine, mais on a également des incertitudes quant à l'interprétation de la cause de soutien sur l'OTAN, par exemple, des Américains. Il y en a eu quelques déclarations de Donald Trump en ce sens, qui nous pose des interrogations sur la capacité des Américains à venir en soutien si les pays européens étaient attaqués. Toutes ces interrogations nous incitent à nous organiser collectivement. Et donc ça veut dire d'abord s'organiser en européen vers une défense européenne, pas en substitution de l'OTAN, pas en substitution de notre coopération avec les alliés, mais en plus. Et puis, ça nous incite également à prendre le relais du soutien à l'Ukraine et surtout que la Russie soit assurée que les Européens garderont ce soutien dans la durée. C'est fondamental dans notre stratégie de conviction et c'est fondamental dans la paix à venir. Et nous souhaitons évidemment, comme tout le monde, que la paix puisse advenir dans cette région.
En gros, l'Ukraine peut encore gagner la guerre sans l'aide des Américains, c'est ce que vous dites ?
Non, je pense que l'Ukraine peut gagner la guerre et que tout dépend de notre soutien. Voilà.
De votre soutien en tant que...
De notre soutien collectif. Je suis ici, par exemple, en Côte d'Ivoire. Le président m'a rappelé le soutien sur la position. Je crois que les votes, notamment aux Nations Unies, de la part de la Côte d'Ivoire, sont exemplaires sur la question ukrainienne. À nous de convaincre plus largement, y compris en Afrique.
Le président Emmanuel Macron, un déplacement était annoncé en Ukraine. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ?
Ça, je ne pourrais pas vous le dire. D'abord pour des questions de sécurité. Et puis il y aura probablement des initiatives de notre part, soit à mon niveau, soit au niveau du président de la République, à la fois pour matérialiser ce soutien et à la fois pour organiser des déplacements sur place, faire des annonces. Probablement, en tout cas je le souhaite.
C'est en tout cas une guerre qui pèse sur la campagne pour les Européennes. L'Union européenne renouvelle son Parlement dans quelques semaines avec une percée des extrêmes attendue, en tout cas selon les sondages. Le groupe Renew, dont vous avez pris la tête, s'était posé comme une forme de rempart à ces partis nationalistes, populistes, Stéphane Séjourné, et pourtant il gagne encore du terrain.
Bon, d'abord, les institutions européennes peuvent être bloquées à l'issue de ce scrutin.
C'est votre crainte ?
C'est ma crainte et c'est ce qui peut réellement se passer si on en regarde les majorités et les minorités de blocage qui peuvent être réalisées. Vous savez, d'expérience, la présidente de la Commission européenne a été élue à 8 voix au Parlement européen il y a 5 ans. Et pourtant, nous avions une large majorité, et pourtant, nous pensions avoir une large majorité sur ce vote. On voit bien la difficulté, là, de pouvoir organiser les choses. Donc oui, il peut y avoir un blocage des institutions, tant d'ailleurs sur le programme politique qui sera porté par la Commission que sur les postes à responsabilité. Je le dis, c'est pas anodin, notamment dans la période avec l'Ukraine, puisqu'on sera dans un moment de l'histoire de tous les risques. Élections aux États-Unis, avec aussi une crainte de l'incapacité des Américains à bouger si proche de cette élection, peut-être des institutions européennes bloquées, et des fois, vous l'évoquiez, un front russe qui peut avancer. Ce contexte est le pire des scénarios. Et donc oui, cette élection, elle est majeure en Europe. Probablement, c'est l'élection la plus importante depuis 1979. Je le disais régulièrement dans les interviews. Je crois sincèrement. La montée des extrêmes et des populistes se fait un peu partout, dans tous les pays. Quand je vois, y compris un pays comme le Portugal, qui était l'exception, notamment à l'extrême droite en Europe, aujourd'hui a des scores de 18, 19, 20% pour les extrêmes. Donc oui, c'est inquiétant. Ça veut dire que les pro-européens doivent se réveiller en termes de mobilisation dans cette élection et plus profondément, pour aller plus loin dans l'analyse, il faudra aller convaincre tous nos concitoyens que l'Europe, elle est là pour protéger et que nous avons besoin d'Europe dans la période, parce que l'Europe protège et depuis maintenant des dizaines d'années, elle nous a garanti la paix.
Et j'aimerais vous poser une dernière question sur Haïti. La première étape de votre déplacement en Afrique, Stéphane Séjourné, c'était le Kenya, avec des convergences de vues, dites-vous, sur plusieurs conflits, dont celui qui prévaut en Haïti. La France soutient la force d'appui à la police nationale haïtienne menée par le Kenya, mais selon Nairobi, l'argent n'est pas là. Comment vous l'expliquez ?
Alors, on a investi déjà plus de 3 millions d'euros dans cette... dans cette opération pour garantir justement la stabilité. Je remercie d'ailleurs le Kenya, on a abordé ce sujet-là avec les autorités kenyanes qui veulent être la nation cadre. On organise également les consultations avec les Canadiens et les Américains sur le sujet. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on a fait presque le plus gros du travail pour ce qui est de la question politique puisqu'il y a un accord qui a été trouvé. Il faut maintenant résoudre la question sécuritaire. mais il faudra résoudre également la question économique. Et donc, je pense que penser qu'on peut résoudre uniquement une des questions séparées, c'est-à-dire la question sécuritaire ou politique, sans résoudre la question économique et de l'endettement du pays, est à mon avis vain. Donc, les discussions se poursuivent pour prendre le sujet de manière plus globale et pour réussir à ramener la sécurité d'abord.
Mais le Kenya n'a pas réussi à récolter suffisamment d'argent pour l'envoi de cette force.
Malheureusement non, mais on y travaille.
Comment vous l'expliquez ? Haïti n'intéresse pas suffisamment la communauté internationale ?
Si. À la fois, j'étais au Guyana avec les responsables régionaux. J'ai été au Kenya et nous travaillons avec tout le monde pour lever de l'argent. Encore une fois, la France est au rendez-vous puisque nous avons participé et nous sommes présents localement. Notre ambassadeur est sur le terrain et fait un excellent travail que je veux d'ailleurs saluer.
Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux antennes, RFI et France 24.